Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Le nom de François Ferdinand d'Autriche nous renvoie au fameux attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, attentat qui fit de l'héritier du trône la première victime de la guerre 14-18. Événement tragique s'il en est, un peu avant 11h, Gravilo Princip tire sur le couple impérial à la sortie de l'hôtel de ville. Après avoir murmuré quelques mots à sa femme touchée elle aussi, « Sophie, Sophie, ne meurs pas pour mes enfants », l'archiduc répète à plusieurs reprises « Ce n'est rien, ce n'est rien ». Il tombe dans le coma, revient à lui, mais que pour quelques instants seulement, le mal est fait, l'archiduc s'éteint. Les héritiers vivent parfois sous le règne du conditionnel et de l'incertain. Le destin, la fatalité ou la providence, selon le point de vue, en décida ainsi en ce qui concerne François Ferdinand. Le vieux François-Joseph, sur le trône depuis 1848, régna encore 2 ans et laissa finalement la succession à son petit-neveu Charles Ier. Nous avons évoqué, à l'occasion d'une émission enregistrée avec le professeur Jean-Claude Alain, émission disponible dans la médiathèque de Canal Académie, les données géopolitiques et économiques qui présidèrent au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur la vie de cet héritier, de ce martyr d'un empire qui ne résistera pas à la guerre européenne. Longtemps délaissé par l'historiographie, nous aurions pourtant bien tort de considérer d'un œil secondaire ce personnage qui vécut un demi-siècle. Quelle fut la vie de cet héritier d'un des plus grands empires de notre histoire? Comment s'est préparée la succession à François-Joseph? Quels furent ses rapports avec le dernier monarque de la vieille école, comme ce dernier se définissait lui-même? Quel programme politique prépara François Ferdinand avant d'accéder à la charge suprême? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Jean-Louis Thieriot. Jean-Louis Thieriot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, historien également. Vous avez publié l'an dernier un ouvrage consacré à François Ferdinand d'Autriche, de Meyerling à Sarajevo, aux éditions de Fallois. Alors, Jean-Louis Thieriot, en quatrième de couverture, il est écrit que vous avez un lien particulier avec l'Autriche. Quelle est la nature de ce lien? Parce que je suppose que c'est ce lien qui vous a amené vers François Ferdinand.
Absolument. Alors, ce lien, il est quadruple. Il est d'abord familial, puisque j'ai une arrière-grand-mère autrichienne et que par conséquent, j'ai toujours vécu avec des souvenirs d'Autriche rédigés par mon arrière-grand-père du temps où il était à l'ambassade de France à Vienne, qui n'ont jamais été publiés, mais donc c'était quelque chose dans lequel j'ai vécu. Autrement, les raisons plus proches ont été le fait que j'ai fait mes études d'histoire sur l'Autriche et qu'à ce moment-là, j'ai découvert qu'il n'existait aucun livre sur François Ferdinand en langue française publié depuis 1932 et que je me suis dit, ce livre, j'en aurais besoin. Et donc, je me suis juré de le faire un jour. La troisième raison, c'est que mon activité d'avocat m'a amené à travailler beaucoup avec l'Autriche et avec des entreprises autrichiennes, donc à renforcer encore ces liens. Enfin, j'ai fait mon stage de Sciences Po à l'ambassade de France à Vienne et j'ai gardé des contacts fréquents avec notre ambassade là-bas.
Alors, comment expliquer le fait que l'historiographie ait délaissé un personnage capital, parce que je le disais en introduction, c'est la première victime de la Première Guerre mondiale.
Alors, je pense qu'il y a au moins 2 raisons à cela. D'abord pour la France. Et là, il faut distinguer la France et les pays germaniques. Les pays germaniques ont une historiographie très riche sur François Ferdinand. La France n'a publié donc qu'un seul livre en 1932 par Muret. Et je pense qu'il y a une part de peut-être de culpabilité refoulée dans le fait que la guerre de 14-18 a abouti à la dissolution de l'Autriche-Hongrie alors que François Ferdinand avait des projets extrêmement sérieux de rénovation de l'Autriche et je pense que cela a joué. La seconde raison, c'est que ce n'était pas un personnage sympathique et que si c'était un homme de caractère, il représentait une image d'un prince conservateur, d'un prince catholique, d'un prince du temps jadis qui ne correspondait pas forcément à l'image que la France républicaine ou moderne pouvait avoir du chef d'État idéal.
Alors François Ferdinand, méconnu parce que mal aimé ou bien mal aimé parce que méconnu?
Les deux à la fois, je pense.
En exergue de votre livre, Jean-Louis Thieriot, vous citez quelques mots d'Antigone. Vous auriez pu retenir un mot également de Cassandre. Vous croyez à cette fatalité, puisqu'il s'agit d'un mot sur la fatalité, je vais me permettre de le citer in extenso, et voilà, maintenant le ressort est bandé, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul, c'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne un petit coup pour que cela démarre, c'est tout. Après, on n'a plus qu'à se laisser faire. On est tranquille, cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Vous croyez en cette fatalité ?
Alors, c'est toute la question. L'histoire est-elle libre ? L'histoire est-elle écrite ? Non, bien sûr. Et on a trop su, avec les discours marxistes, comment les prévisions de l'histoire et l'histoire scientifique étaient condamnées. Donc, en tant que telle, non, l'histoire n'est jamais écrite. Et il y a toujours un moment où on peut espérer que la volonté humaine puisse arrêter une machine infernale. Cela étant, quand on prend la vie de François Ferdinand, et en particulier cet attentat de Sarajevo, qui est un roman policier à rebondissement incroyable, alors que l'attentat aurait pu être arrêté 5 fois, 10 fois, 15 fois, on se dit, ce jour-là, on a le sentiment qu'une puissance obscure, que je me garderais bien de définir, a abouti au suicide de l'Europe dans la Première Guerre mondiale.
Alors, dès les premières lignes de votre ouvrage, vous écrivez que François Ferdinand avait des idées qui auraient pu sauver la monarchie. Une voie, est-ce que à l'issue, vous ne répondez pas vraiment à cette question, est-ce qu'une autre voie était possible ? Est-ce que l'on aurait pu sauver cette monarchie austro-hongroise ?
Alors, je pense qu'avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, et que le rôle de l'historien n'est pas de raconter l'histoire telle qu'elle aurait pu se passer, mais de dire l'histoire, ou d'essayer de dire l'histoire telle qu'elle s'est passée. En tout cas, il faudrait être bien présomptueux pour dire oui, l'Autriche-Hongrie aurait pu être sauvée. Je dis simplement, et j'en suis profondément convaincu, qu'il y avait des éléments très forts qui militaient pour la pérennité de cette Autriche-Hongrie. Et ces éléments forts, j'en citerai trois. Le premier, c'est que dans les dernières années, avant la guerre de 14, les tensions nationales allaient plutôt en s'apaisant grâce à des autonomies régionales qui avaient été accordées, en particulier en Galicie et en Bohême. Que, en second lieu, la population austro-hongroise est restée soudée autour de son empereur tout au long de la guerre, et que les défections ont été rarissimes, sauf dans les 3 ou 4 derniers mois de la guerre, alors que l'Autriche-Hongrie a connu une guerre encore plus difficile, notamment pour l'arrière, que ce que la France a pu connaître avec la disette et la famine à Vienne et à Budapest. La troisième raison, c'est que, après-guerre, enfin, les tentatives de restauration que l'empereur Charles, notamment, a essayé de faire en Hongrie, se sont heurtées à la volonté des vainqueurs et à la volonté du régent Horthy, mais que, manifestement, la population, pourtant d'une Hongrie qui n'aimait pas trop les Habsbourg par rapport à d'autres peuples de la monarchie, ces tentatives de restauration étaient fondées sur une vraie assise populaire. Donc oui, la monarchie austro-hongroise représentait un potentiel sérieux. J'ajouterai pour finir que c'était le seul marché unique européen avec l'Allemagne de 50 millions d'habitants à l'époque, et que c'était une force considérable, et toutes les parties de la monarchie avaient à perdre de cet éclatement de la monarchie.
Ouais. Alors, il faut sortir d'emblée peut-être d'une vision complètement marxiste de cette Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie était un ensemble moderne.
Tout à fait. C'était une sorte de préfiguration de l'Europe que l'on essaye de construire aujourd'hui à 25. C'était un pays qui rassemblait une 50aine de millions d'habitants, une 15aine de peuples avec des frontières plus ou moins claires entre elles, avec une organisation constitutionnelle très variée d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre, et qui, de ce point de vue-là, préfigurait une forme d'organisation fédérale. Au moment qui nous occupe, c'est-à-dire après le compromis de 1867, l'Autriche-Hongrie était divisée en 2 entités distinctes, la Translétanie et la Cislétanie, c'est-à-dire grosso modo l'Autriche d'un côté et la Bohême, la Hongrie de l'autre, et l'empereur régnait à la fois comme empereur d'Autriche et comme roi de Hongrie. Et cette distinction assez artificielle entre 2 composantes d'un empire qui en fait était composé de beaucoup plus de peuples et de beaucoup plus de traditions a été à l'origine de nombreuses tensions nationales, et c'était la position de François Ferdinand et qui, je crois, avait raison. Et de ce point de vue là c'était effectivement un des thèmes de réforme qu'il souhaitait mettre en œuvre le jour où il accéderait au pouvoir.
Alors nous reviendrons naturellement sur ces questions, sur notamment la question du dualisme, la question du trialisme. commençons, si je puis dire, par le commencement, venons-en à sa jeunesse, donc au personnage même de François Ferdinand. Vous écrivez, il n'était pas né pour affronter les feux de la rampe. Quelles sont les origines de François Ferdinand ?
Ah, mais François Ferdinand n'a affronté les feux de la rampe qu'en raison des innombrables tragédies qui ont touché les Habsbourg au crépuscule. Normalement, François-Joseph et l'impératrice Élisabeth, Sissi, si bien connue, ont eu un fils, Rodolphe, qui avait vocation à devenir l'héritier du trône. Et on sait que Rodolphe a disparu tragiquement à Mayerling, suicide ou assassinat, je n'en sais rien et je ne me prononcerai pas sur la question. Je n'ai pas travaillé personnellement le sujet, même si j'ai tendance à rejoindre les positions du professeur Bled sur cette question qui estime qu'il s'agissait d'un suicide. En tout cas, l'héritier du trône qui n'avait pas d'enfant mâle meurt. Normalement, c'était le premier frère de François-Joseph de lui succéder. C'est l'empereur Maximilien du Mexique. La tragédie de Maximilien qui est fusillé au Mexique, lui-même n'avait pas d'enfant mâle. Et on passe au deuxième frère de François-Joseph, Charles-Louis, qui n'était pas très doué pour la chose publique. Et c'est donc le fils aîné de ce dernier, François-Ferdinand, qui est assez vite regardé comme l'héritier du trône après la mort de Rodolphe en 1889. Mmh. Donc effectivement, c'est une série d'enchaînements tragiques qui l'ont mis au premier rang de la monarchie.
Mmh. Mais avant toutes ces tragédies, bon, l'archiduc, en tous les cas, François-Ferdinand, vous présentez sa jeunesse. Quelle jeunesse, finalement, vit cet homme qui, vous le dites, a un père peu habitué à la chose publique, a plusieurs mères ?
Oui, il a une jeunesse. Alors effectivement, il perd très jeune sa mère, qui meurt de la tuberculose quand il a... C'est sa belle-mère, en fait, Marie-Thérèse du Portugal, Marie-Thérèse de Bragance, qui sera de facto sa véritable mère. Il a l'éducation classique des jeunes archiducs, c'est-à-dire des précepteurs, des militaires, puisque la monarchie austro-hongroise ne se conçoit pas sans l'armée, une jeunesse entre précepteurs, chasse et passage dans l'armée, avec visiblement un déficit affectif très fort au départ, notamment en raison du veuvage précoce de son père et d'un père qui ne passait pas beaucoup de temps avec lui, une méfiance très vive à l'égard d'autrui, d'autant plus forte que son petit frère Otto était un garçon brillant et facétieux qui lui passait devant et qui lui faisait de l'ombre. Et c'est une situation dont il ne se remettra que progressivement avec les liens affectifs qu'il tissera avec sa belle-mère et avec un entourage toujours très restreint.
Vous présentez une réelle complicité entre sa belle-mère et lui.
Oui, alors ça c'était un élément évident et qui se manifestera tout au long de la vie de François Ferdinand. Sa belle-mère était plus âgée que lui, mais d'une dizaine d'années, donc finalement assez peu. Elle venait d'une famille nombreuse, d'une famille royale déchue, mais elle avait été l'aînée, elle avait eu à gérer une nombreuse fratrie, et elle a tout de suite réussi à mettre François Ferdinand en confiance et à faire en sorte que ce garçon un peu sauvageon, si j'ose employer l'expression, trouve une épaule féminine sur laquelle se confier, et il a connu à ce moment-là la douceur d'une mère, sachant que parlant de sa propre mère, il dit qu'il ne se souvenait que d'une dame lointaine, toujours fatiguée, toujours vêtue de blanc.
Je reçois Jean-Louis Thieriot, auteur de François Ferdinand d'Autriche, de Mayerling à Sarajevo, paru aux éditions de Fallois. Nous nous retrouvons après une première pause.
Thank you.
Canal Academy reçoit Jean-Louis Thieriot, auteur d'une biographie de François Ferdinand d'Autriche. Alors, Jean-Louis Thieriot, nous avons évoqué cette jeunesse. Quel est le caractère de François Ferdinand? Vous présentez un jeune garçon qui a un orgueil amer, qui est très, très méfiant. J'allais dire, tout le début de votre ouvrage présente un personnage peu sympathique, et c'est plutôt vers la fin de sa vie que vous en faites un personnage attachant.
Oui, je pense qu'il n'a jamais été un personnage chaleureux et en tant que tel sympathique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se confier spontanément à lui. C'est quelqu'un qui mûrit très jeune par les épreuves, a été effectivement très méfiant. C'est quelqu'un qui a des idées très arrêtées, qui est probablement l'un des plus brillants des Habsbourg de sa génération, avec une langue particulièrement acérée et persiflante quand il s'agit d'exécuter d'un mot vigoureux ses adversaires. Donc ça, c'est le côté négatif du personnage. Le côté positif du personnage et le côté sympathique, c'est que c'est un homme de conviction, c'est un homme de volonté, c'est un homme qui se bat pour les idées auxquelles il croit et les personnes auxquelles il tient. Il est quelqu'un qui donne très difficilement son amitié ou sa confiance, mais quand il la donne, il ne la retire pas à une condition, c'est qu'on soit franc avec lui. Et l'une de ses grandes qualités, c'est qu'il déteste les courtisans, il déteste les flatteurs, et il dit à un moment à Konrad von Otzendorf, je crois, qui était le chef d'état-major de l'armée autrichienne qu'il avait fait nommer, vous ne savez pas la chance que vous avez, on peut vous parler franchement, nous, les Habsbourg, qui avons vocation à distribuer les titres, les récompenses, les décorations, tout ce que l'on nous dit, c'est toujours intéressé. Donc oui, il détestait les courtisans et les flatteurs, c'était un homme vrai et à ce titre, un peu rude.
Alors, je reste sur sa jeunesse. Vous présentez un personnage qui l'a beaucoup influencé, c'est le père Gottfried Marshall.
C'était effectivement l'aumônier qui lui avait été donné et qui ensuite a été un de ceux qui l'ont le plus marqué en matière d'idées politiques.
C'est lui, c'est ce père qui va en quelque sorte le canaliser.
Tout à fait, qui va le canaliser au nom de la foi très vive de François Ferdinand et avec une théologie simple finalement qui s'appuie sur la parabole des talents, qui est quand on a reçu plus que la providence. Et se trouver à Habsbourg est tout de même une marque d'élection de la Providence, on doit donner plus et notamment être fidèle à ses devoirs. Et ça a été un élément déterminant de l'enseignement du père Marshall. Par ailleurs, et c'était aussi une de ses convictions fortes, c'est que les familles régnantes avaient été placées sur le trône par un décret de la Providence. Et là, on retrouve toute cette ligne qui part des théories de la monarchie absolue de Bossuet et qu'on retrouve ensuite dans les théoriciens conservateurs. Que compte tenu de cette destinée, c'est de cette élection divine, eh bien, il appartenait d'être à la hauteur de cette mission qui vous était impartie. Par ailleurs, le père Marshall, qui finira coadjuteur de Vienne, n'était pas du tout un de ces catholiques bigots et étroits dont le 19e siècle a été parfois, il faut bien le reconnaître, un peu friand. Il savait être aimable, il savait que la chair était faible, il savait que l'homme était pécheur et que ce qui importait, c'était la force de l'espérance plutôt qu'une morale, je dirais, comptable.
Alors justement, venons-en aux grandes idées du 19e siècle. Le 19e prolonge les Lumières en Europe. Quelle position adopte François Ferdinand alors qu'il n'a pas 25 ans sur ces questions? Est-ce que ça reste un traditionnaliste ou se penche-t-il plutôt vers une société moderne telle qu'on la définissait tout à l'heure?
C'est incontestablement un traditionnaliste. Il est totalement étranger aux idées de la Révolution française, il est totalement étranger aux idées du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est même totalement étranger à l'idée de démocratie, il pense que les élites, je dis ça au sens large, ont vocation à guider les peuples. Maintenant, et c'est pour ça que ça c'est sa réflexion à 25 ans, en même temps ça n'est pas une réflexion bornée, c'est pour ça qu'il s'opposera un peu plus tard, par exemple à l'instauration du suffrage universel en Autriche, mais qu'en même temps il sait que dans la Hongrie, où ce sont les magnats, c'est-à-dire les grandes familles aristocratiques qui freinent les réformes, eh bien, il n'hésitera pas à dire dans ce cas-là, imposons le suffrage universel et donnons le pouvoir instaurons une démocratie qui ne soit pas censitaire. Enfin, et ça c'est un élément capital, là où il est moderne, c'est qu'il mesure les limites d'un capitalisme qui n'est pas régulé. Il est très marqué par les idées chrétiennes sociales et par la doctrine sociale de l'Église, dont il faut rappeler qu'elle est formalisée à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, jeune, il fait un voyage autour du monde, il va aux États-Unis, il constate ce que peut être la vie du prolétariat américain, et il est particulièrement choqué par ce qu'il appelle un matérialisme brutal qui ne tient pas compte du devoir de protection des plus faibles et des plus humbles. Et donc, en matière sociale, il est relativement avancé.
Ce voyage, puisque vous l'évoquez, est vraiment très important. Il va durer très longtemps, il va lui permettre de découvrir les Anglais, vous le dites, les Américains. Dans sa formation, les voyages forment la jeunesse, mais là, c'est vraiment, c'est très clair.
Ah, c'est tout à fait capital. Il a fait un voyage qui a duré un an, où il a fait le tour du monde, où il a pu effectivement développer une certaine anglophobie, mesurer l'importance du fait maritime dans la géopolitique, en voyant notamment la présence anglaise à travers le monde entier, où il a vu le système fédéral américain avec ses avantages et ses inconvénients. C'est aussi un voyage qui lui a fait découvrir ce qu'était la vie d'officier, la vie d'équipage, et dont il a gardé un souvenir très important. Donc oui, ça a formé la jeunesse. Et en plus, et j'en aurais fini avec le voyage, c'est qu'il a publié un livre à son retour qui s'appelle « Mon voyage, Meine Reise um der Welt », où il fait la chronique de ce voyage et où on constate un esprit acéré, une plume fine, et où contrairement aux esprits chagrins, c'est bien François Ferdinand qui a tenu la plume. On a les archives Archstetten que j'ai pu consulter, et c'est l'archiduc qui a écrit cette narration de voyage avec des remarques très fines sur les pays qu'il visite. Quelques passages ont été censurés parce qu'ils étaient peu diplomatiques, mais c'est un ouvrage de la main de l'archiduc qui permet bien de mesurer ce qu'il pensait dans sa jeunesse.
Alors, autre élément de sa formation qui est tout aussi capital, c'est, vous le disiez tout à l'heure, l'aspect militaire qui finalement fait partie de l'éducation de tout prince. Lui s'intéresse beaucoup à cet aspect militaire.
Ah, il s'y intéresse pour trois raisons. La première, c'est qu'il aime le milieu militaire. Il aime ce milieu d'ordre où les choses sont simples et où on n'a pas à discuter longuement avec des politiciens pour savoir si on prend une décision blanche ou noire. Donc, il aime le milieu militaire. Deuxièmement, il sait, et des livres comme La Marche de Radetzky de Joseph Roth le montrent merveilleusement bien, combien l'armée est l'une des colonnes vertébrales de l'armée austro-hongroise, à la fois l'ultime recours, mais aussi un des éléments de sa structuration et de sa mobilité sociale. Donc pour lui, c'est un élément essentiel de la monarchie. Enfin, il mesure la montée des périls, que ce soit à travers les alliances qui se nouent ou que ce soit les périls intérieurs. Et à ce titre, il veut avoir un outil militaire aussi performant que possible. Donc pour ces trois raisons-là, il est vraiment un archiduc soldat. Il a gravi tout le cursus, mais pas uniquement à titre honorifique. Il était fréquemment avec ses hommes. Il a été général de brigade. Il a été ensuite mis à la disposition du haut commandement. Et il a fini avec le plus haut grade de l'armée autrichienne, c'est-à-dire inspecteur général des armées. Ça, c'était en 1913, ce qui veut dire qu'en cas de guerre, si François-Joseph était toujours de ce monde, il aurait eu vocation à être commandant en chef de l'armée autrichienne, ce qui montre à quel point ses capacités militaires étaient reconnues, puisque c'est un risque très important de mettre le futur empereur à la tête des armées en cas de défaite.
Alors, dernier élément, ou dernière as de cette jeunesse, qui est très important, c'est la maladie. Parce que c'est un garçon qui est malade, qui est atteint dans sa chair très régulièrement.
Tout à fait. François Ferdinand a été atteint de tuberculose dans sa jeunesse. On l'a donné pour perdu pendant à peu près 2 ans. C'était de 1894 à 1896, 1897. Et à ce moment-là, il a eu à connaître des épreuves terribles. Ces épreuves, ce fut d'abord la maladie contre laquelle il avait à lutter avec des cures où il n'avait plus le droit de faire aucune activité alors que c'est un suractif, où il a eu surtout à connaître l'épreuve de l'intrigue à Vienne, où Vienne l'avait déjà enterré et où c'était son frère qui était considéré partout comme le futur empereur. Et on parlait de son caractère difficile, cette épreuve où il a vu beaucoup de gens se détourner de lui, y compris ceux qu'il cajolait avant au profit de son frère Otto, n'ont fait que rendre son caractère plus amer. Et en même temps, heureusement, dans cette épreuve-là, il a découvert celle qui allait devenir la femme de sa vie, la comtesse Sophie Chatec.
Jean-Louis Thiriot, nous nous retrouvons dans une minute.
Environnement, développement durable, énergie verte, Canal Academy vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens.
Que ferons-nous sans pétrole? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademy.com.
Je reçois Jean-Louis Thiariot, auteur d'une biographie de François Ferdinand d'Autriche parue aux éditions de Fallois. Alors nous avons largement évoqué cette jeunesse, cette formation qui est très importante pour tout prince. Finalement, on se dit que parfois ce n'est pas drôle d'être futur héritier ou héritier d'Autriche en Hongrie. La formation est difficile.
Alors la formation est difficile et l'exercice du pouvoir l'est encore plus. Donc c'est normal que la formation soit dure pour des épreuves encore plus dures.
Alors vous le disiez en début d'émission, il y a une date majeure, c'est 1880. 89, donc le suicide de Rodolphe. Comment réagit François Ferdinand, qui appréciait beaucoup son cousin Rodolphe ?
Écoutez, on n'a pas de texte, donc là on manque de sources, on suppose mal étant qu'ils étaient très proches. Maintenant, la réaction qu'il a, c'est qu'il sait que maintenant il est destiné à jouer les premiers rôles sur la scène de l'histoire et que par conséquent le temps de la jeunesse à la lieutenant, comme on le disait à l'époque et comme le lui avait dit son oncle l'archiduc Albert, est fini et qu'il doit se comporter en héritier du trône. Alors au départ c'est un peu difficile, il semblerait que pendant 2 ou 3 ans il garde encore cette légèreté de la vie d'officier, et puis très vite il se met dans son rôle et il en assume toutes les conséquences.
Vous parlez vraiment d'une ambiguïté chez lui, c'est-à-dire qu'il est, il est considéré comme le prince héritier mais sans l'être officiellement, et vous ajoutez toutes les exigences de la fonction sans la reconnaissance du statut.
Oui, je ne rentrerai pas dans ces détails-là compte tenu du format de notre émission, mais c'est vrai, statutairement il y a un statut normalement de Thronfolger, de prince héritier à la cour d'Autriche, et juridiquement, à la mort de Rodolphe, c'était Charles-Louis, donc le père de François-Ferdinand, qui devenait Thronfolger, mais il n'a jamais été déclaré comme tel, et tout le monde savait que ce serait François-Ferdinand. Mais pour des raisons qui restent à déterminer, qui sont probablement le fait que François-Joseph et même moyennement François-Ferdinand n'avaient pas envie de souligner ce qui rappelait encore plus la mort de son propre fils. Il n'a jamais été proclamé Thronfolger, donc héritier du trône, et n'avait pas à ce titre les avantages que pouvaient être les services de cour, l'existence d'une chancellerie, toute une série de facilités qui sont censées aider un prince héritier dans sa tâche. Et il ne participait pas non plus aux fonctions de représentation d'un prince héritier. Il n'était pas informé de décisions qui normalement étaient transmises au prince héritier. Donc oui, de ce point de vue-là, il a vécu une situation très ambiguë et où il écrit à un moment à la comtesse Fugger « L'être sans l'être, c'est ce qui est le plus terrible. Je voudrais enfin que mon statut soit clarifié.
Vraiment, il a une position qui n'est pas facile. Venons-en, si vous le voulez bien, Jean-Louis Thiariot, à la formation politique, puisque tout au long de sa vie, et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, bon, il n'est pas sur le trône, mais il n'empêche, il va se former pour monter sur le trône et il va se cultiver, il va s'entourer de personnages importants. Et dans cette formation, en tous les cas, dans l'apprentissage de l'Autriche-Hongrie, il y a la Hongrie. Et la Hongrie pose un problème à François Ferdinand.
La Hongrie pose un problème majeur à François Ferdinand. On a insisté sur les difficultés linguistiques qu'il avait pu rencontrer avec le hongrois. Je ne pense pas que ce soit l'élément déterminant. Le problème qu'il a rencontré avec la Hongrie, c'est qu'il estime qu'il s'agit d'un peuple viscéralement rebelle. Il ne faut pas oublier qu'en 1848, la Hongrie a essayé d'arracher son indépendance et que ce n'est que à la suite d'opérations militaires menées avec l'aide de la Russie et la défaite de Villagos que François Joseph a réussi à reconquérir le pouvoir en Hongrie. Et après la défaite de Sadova contre la Prusse pour redonner à l'Autriche une solidité institutionnelle, François Joseph a accordé à la Hongrie des avantages considérables. On l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un parlement qui siégeait à Budapest, un premier ministre hongrois qui siégeait à Budapest et surtout des droits sur des minorités traditionnellement fidèles aux Habsbourg qui sont les Roumains de Transylvanie et les Croates de Croatie, qui sont des Slaves et qui sont traditionnellement très fidèles à la monarchie. Et ces populations non-hongroises étaient victimes d'une oppression majeure de la part des Hongrois, puisque, pour prendre un exemple, sur à peu près 500 parlementaires hongrois au Parlement de Budapest, il n'y avait que 35 représentants des minorités, alors qu'elles représentaient près de la moitié de la population de la Cisléitanie, de la Transléitanie. Donc, François Ferdinand tirait une conclusion, ces populations qui nous sont fidèles vont se détourner des Habsbourg à cause de l'oppression hongroise, et donc il faut régler cette question de la constitution hongroise et ramener la Hongrie au statut d'un peuple parmi d'autres, et ne pas prêter serment sur la couronne de Saint-Étienne, sur le respect de cette nouvelle constitution de 1867, pour pouvoir réformer la Hongrie comme elle doit l'être.
Mmh. Vous le dites dans votre ouvrage, sur cette idée de trialisme, de fédéralisation, et il ne faut pas confondre les termes, il passe par plusieurs étapes, c'est-à-dire que ce n'est pas un prince avec une pensée figée, c'est un prince qui est, et vous le répétez à plusieurs reprises, pragmatique sur cette question.
C'est sa grande force. Il a su s'entourer, vous l'avez dit, et à la chancellerie militaire au Belvédère, donc là où il s'installe à partir de 1900, il réunit des savants, des militaires, des publicistes, des spécialistes de droit constitutionnel, qui font un considérable travail de préparation, qui proposent différents schémas, et il prend garde de ne se lier à aucun d'entre eux pour pouvoir garder les mains libres le jour où il accédera au trône. Mais il passe, grosso modo, par quatre étapes successives. La première qui va, je dirais, de 1900 à 1903-1904, qui est celle d'une création des vieux pays d'État, c'est-à-dire des anciens royaumes, mais il y en avait une quinzaine ou une vingtaine qui constituaient la monarchie austro-hongroise et qui manifestement n'étaient plus adaptés à l'évolution politique. Donc il abandonne cette solution-là, il glisse vers une solution trialiste où la Bohème obtiendrait les mêmes droits que la couronne de Saint-Étienne, c'est-à-dire que les Hongrois. Ensuite, il glisse vers une solution plus fédérale, inspirée par un Roumain très connu qui s'appelle Aurel Popovici et qui a publié à ce moment-là un livre qui s'intitulait « Les États-Unis de la Grande Autriche », solution dont il faut d'ailleurs noter qu'elle était également soutenue par les socialistes autrichiens avec Karl Renner, ce qui veut dire que ça n'était pas qu'une vision venant du haut de la monarchie. Et dans les dernières années, dans les deux ou trois dernières années, il allait vers une solution mixte qui pouvait soit être un trialisme, mais où cette fois-ci ce serait les Slaves du sud de la monarchie qui seraient favorisés, ou un fédéralisme où serait, là où il y avait des États clairement identifiés, des minorités ethniques clairement identifiées, des États fédérés qui seraient créés, et pour le reste, un parlement des minorités qui à Budapest leur permettrait d'être représentés avec un système bicaméral. Mais on a effectivement une évolution constante et aucun dogmatisme figé chez François Ferdinand.
Quelle place a l'Allemagne dans sa pensée, ou plutôt la germanité, puisque l'Autriche est portée vers la germanité?
Alors clairement, François Ferdinand ne se pense pas comme un prince allemand. L'idée autrichienne, l'austriacité, comme le dit très bien Claudio Magris dans son livre sur l'Empire, n'est pas du tout une idée nationale. C'est une idée multinationale, supranationale, qui réunit des peuples slaves, des peuples hongrois, des peuples allemands. Et ce qu'il lui importe d'abord, c'est de faire vivre ensemble ces différents peuples. Alors l'Allemagne, c'est le grand voisin. L'Allemagne, c'est un peu le parvenu qui a été taillé des croupières à l'Autriche, notamment à Sadova, et en créant l'Empire allemand, c'est l'allié nécessaire. Il apprécie la fidélité de l'Allemagne, notamment au moment de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, où l'Autriche a été pour le moins légère. Cela étant, il n'a jamais dit qu'il serait un allié obéissant de Guillaume II, et d'ailleurs, il tenait à rétablir un équilibre du principe monarchique en Europe, c'est-à-dire que son rêve était de se rapprocher de la Russie pour que, face aux menaces de républicanisation de l'Europe venant notamment de la France, le principe monarchique puisse être préservé à travers une alliance des trois empereurs dans l'esprit du Congrès de Vienne.
Oui, cela ne signifiait pas qu'il n'aimait pas Guillaume II non plus. Il appréciait énormément
non,
Guillaume II.
Non, il avait des liens très proches avec Guillaume II, mais qui étaient des liens personnels de Mahom, tenant notamment au fait qu'après le mariage morganatique qu'il avait fait, Guillaume II a réservé réserver à son épouse Morgan Atik un accueil toujours excellent et très chaleureux. Et c'était le point faible de François Ferdinand, le point sur lequel on pouvait ou obtenir ses faveurs ou encourir sa disgrâce. Et de ce point de vue-là, Guillaume II avait été particulièrement habile. Pour le reste, c'était l'un et l'autre des passionnés de chasse, c'était l'un et l'autre des princes soldats dans l'âme, donc ils avaient effectivement beaucoup de points communs. Ils étaient passionnés par la chose navale également en commun, et les liens étaient très forts. D'ailleurs, le dernier visiteur de Konopiste, le château préféré de François Ferdinand, a été Guillaume II juste avant l'assassinat.
Guillaume II est un des seuls à avoir envoyé aux enfants, vous le dites dans votre ouvrage, une lettre de condoléances.
Un télégramme extraordinaire, effectivement, et pratiquement aucun souverain ou république d'ailleurs ne se sont préoccupés des enfants de François Ferdinand. Il s'agissait d'enfants issus d'un mariage morganatique, donc légitime mais non dynaste, et à ce titre-là, finalement, pour la plupart des cours, ils étaient inexistants. Guillaume II a écrit une très belle lettre en disant « Vous ne pouvez savoir comme nous nous sentons proches de vous après les moments merveilleux que nous avons passés à Konopiste il y a quelques jours avec vos chers parents, et nous prions le Seigneur pour qu'il vous donne la force de supporter cette épreuve. La lettre est plus longue, plus belle et plus émouvante, je la résume. »
Merci Jean-Louis Thieriot, nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à François Ferdinand d'Autriche. Je reçois Jean-Louis Thieriot, auteur d'une biographie sur ce personnage parue aux éditions De Fallois. Alors Jean-Louis Thieriot, vous évoquiez le mariage morganatique, vous avez évoqué l'affaire de la Bosnie également, la question hongroise. Il y a deux autres questions, et le suffrage universel et la question de la catholicité, qui sont finalement des points sur lesquels François Ferdinand et François-Joseph s'opposent. Quels furent les rapports des deux personnages ?
Au départ, franchement mauvais. Quand je dis au départ franchement mauvais, le mariage morganatique imposé par François Ferdinand à François-Joseph pour épouser l'élu de son cœur, la comtesse Sophie Chotek, qui était d'excellence noblesse tchèque, mais qui n'était pas de sang royal, alors que François-Joseph tenait absolument à ce que le mariage soit ebenbürtig, c'est-à-dire fait à égalité de sang, a envenimé d'une manière évidente les relations entre l'oncle et le neveu. Donc au départ, les relations étaient mauvaises. Les relations étaient d'autant plus mauvaises que François Ferdinand s'était forcé de bloquer certaines réformes voulues par François Joseph. Le suffrage universel en Autriche, vous l'évoquiez, il a été très loin jusqu'à essayer de faire en sorte que la Chambre haute fasse capoter le projet. Il passait son temps à bombarder de mémorandums la Hofburg, la résidence de François Joseph, notamment sur la question hongroise, en demandant une attitude de plus en plus, enfin aussi ferme que possible. Et cela aboutit à des relations souvent violentes, au point que l'aide de camp, le baron Margouti, aide de camp de François Joseph, raconte un échange de vues entre l'oncle et le neveu, à l'issue duquel François Joseph s'était pratiquement évanoui, tellement les relations. La discussion avait été orageuse. Au fur et à mesure que le temps passe, François Joseph se rend compte que François Ferdinand n'est pas une tête brûlée, que le travail qu'il fait en matière militaire est tout à fait remarquable, qu'il contribue à redresser l'épée de l'Autriche qui était pour le moins en mauvais état. Et je pense qu'on peut dire avec une quasi-certitude que dans les deux ou trois dernières années de la vie de François Ferdinand, François Joseph a une vraie estime pour son neveu. D'ailleurs, il titre son épouse duchesse Hohenberg pour la faire monter dans la hiérarchie nobiliaire autrichienne. Il l'autorise à participer à des voyages officiels, que ce soit d'abord en Roumanie, puis en Allemagne.
Il s'assoit à côté d'elle lors de bals.
Il lui évite un certain nombre de blessures protocolaires. J'en cite une, mais on pourrait en citer des dizaines, mais il y a des anecdotes que j'évoque dans mon livre qui prouvent à quel point ce mariage a été un chemin de croix protocolaire pour le jeune couple. C'est par exemple, Sophie Chotek n'avait pas le droit de monter dans le même carrosse que son mari pour les manifestations officielles, puisque seuls les membres de la famille royale avaient droit à des carrosses à roues dorées. Il en allait de même dans les loges des théâtres où elle ne pouvait pas être assise à côté de son mari qui était dans la loge impériale. Donc au fur et à mesure, ce genre de choses disparaît et en 1913, François Joseph prend cette décision de nommer François Ferdinand inspecteur général des armées, c'est-à-dire le poste qui, dans l'armée austro-hongroise, signifie le futur généralissime en cas d'opération militaire. C'est la preuve d'une véritable estime de François Joseph pour François Ferdinand. De l'amitié, peut-être pas, de la chaleur, sûrement pas, mais en tout cas de l'estime.
L'année 1906 est vraiment un tournant. Vous le répétez à deux reprises, c'est l'année de cette nomination de ce chef d'état-major qui est un proche. C'est une reconnaissance du travail de François Ferdinand et de ses qualités militaires.
Tout à fait. En 1906, François Ferdinand obtient la nomination de Konrad von Otzendorf comme chef d'état-major des armées. C'est un officier protestant, donc c'est la preuve que la catholicité n'était pas une condition sine qua non chez François Ferdinand. C'est un officier d'une très prussien dans l'âme, donc de ce point de vue-là, assez éloigné des valeurs multinationales autrichiennes, mais d'une efficacité redoutable, qui veut moderniser l'Autriche, qui n'est absolument pas un officier de salon, qui n'est absolument pas un flatteur et qui n'hésite pas à se heurter violemment avec François Ferdinand, tout en le servant loyalement et en sachant que c'est François Ferdinand qui décide. Et en le nommant, François Joseph reconnaît effectivement qu'il a les qualités militaires de son neveu.
Cette armée, nous ne l'avons pas dit, est vraiment importante. Elle représente un enjeu politique. Elle est garante de l'union de l'Autriche-Hongrie.
Là, je renvoie aux deux livres qui, je pense, plus que des livres d'histoire, rendent très bien compte de ce qu'était l'Autriche-Hongrie. C'est L'homme sans qualité de Musil et c'est La marche de Radetzky de Joseph Roth. Et on se rend compte que les deux piliers sur lesquels s'appuyait la monarchie, c'est d'une part l'administration qui date de la grande Marie-Thérèse, mais qui s'est développée avec un dévouement, sens du dévouement très fort à l'empereur, et c'est d'autre part l'armée, dont la devise est d'ailleurs « Viribus unitis » par nos forces unies, qui est à la fois un instrument de cohésion nationale parce que différentes nationalités coexistent dans les mêmes unités, qui est un instrument de promotion sociale parce que l'anoblissement par la voie militaire est accordé à la plupart des officiers après 25 ou 30 ans de service et qui est évidemment un instrument de maintien de l'ordre en cas de nécessité. Donc pour toutes ces raisons-là, l'armée est un outil essentiel de la monarchie.
Sur la chose militaire, François Ferdinand se montre vraiment très moderne. Il tient à rattraper finalement le retard dans lequel était cette armée austro-hongroise.
C'est évident quand il prend en main, ou qu'en tout cas il commence à s'intéresser à la chose militaire, l'armée austro-hongroise n'a pas évolué depuis la défaite de Sadova, depuis 1867. Elle est en retard dans tout ce que sont aussi bien les armes automatiques, les transmissions, l'artillerie, et a fortiori la marine, qui est totalement négligée. Les généraux sont Kakoshim, et je ne citerai qu'un exemple, mais qui l'a marqué en 1906 ou en 1905 au moment des grandes manœuvres. Un général commandant un corps d'armée meurt de vieillesse. Il avait plus de 75 ans pendant les manœuvres, et il s'éteint d'épuisement dans sa tente de commandement. Évidemment, ça n'est pas forcément comme ça qu'on gagne des batailles. En plus, c'est une opération combinée qui avait lieu sur la côte d'Almat. L'artillerie tire sur ses propres troupes, c'est une véritable catastrophe, et François Ferdinand fait un rapport à François Joseph, et c'est d'ailleurs à la suite de ce rapport que Konrad von Otzendorf est nommé et que tout le monde se rend compte qu'il faut réformer. Et c'est vrai qu'en 1914, l'armée austro-hongroise tient relativement bien le choc. La marine remporte des victoires, et des victoires notables, certes contre l'Italie qui n'a jamais été considérée comme étant une puissance navale de premier plan, mais en tout cas la marine italienne est bloqué dans ses ports, et les accès à l'Adriatique sont en permanence maintenus ouverts par la marine autrichienne. Pour le reste, l'armée de terre résiste au choc russe, même si c'est avec l'aide allemande. Et quand en 1916 l'Italie quitte la Triplice pour se joindre à l'entente et pour se retourner dans le dos de l'Autriche, l'armée autrichienne se bat remarquablement, à Caporetto notamment, et les Italiens ne subissent que peut-être pas des défaites majeures, mais en tout cas des revers évidents. Et cette armée-là, c'est l'armée de François Ferdinand.
Mmh. Et cette armée restera vraiment fidèle jusque dans les derniers jours de la guerre.
On a eu quelques défections de régiments tchèques à partir d'octobre ou de septembre 1918, et ça sur le front de l'Est, donc face aux Russes avec des frères slaves. Pour le reste, sur le front face à la Serbie dans les Balkans, aucune défection. Et face à l'Italie, l'armée autrichienne était encore victorieuse au moment où, au moment de l'armistice. Donc l'armée a tenu et a tenu jusqu'au bout.
Oui, donc vraiment, octobre, c'est la fin de la guerre. Peut-être un mot, nous n'avons pas du tout évoqué la France. Est-ce que lors de son voyage, François Ferdinand est passé par la France, et quel était son sentiment à l'égard de notre pays?
Alors, il a traversé la France en train du Havre à la frontière suisse. Pour le reste, il n'a jamais séjourné en France. Quant à l'image qu'il avait de notre pays, elle n'était pas excellente. Il considérait que la France avait été à l'origine de cette grande catastrophe qui avait été, selon lui, la Révolution française, qui avait fait germer le virus du nationalisme dont l'Autriche avait les plus grands mal à se débarrasser. Il savait aussi que c'était à Napoléon qu'on devait l'abandon par les Habsbourg du titre de Saint-Empereur, du Saint-Empire romain germanique. Et il considérait que nous faisions partie des États trublions, c'était le terme qu'il employait, dans lequel il mettait la France et la Serbie dans le même sac, compte tenu de ce que nous avions pu allumer à travers la Révolution française et ses conséquences.
Je le cite, les canons de Solferino ont sonné le premier glas de la monarchie austro-hongroise, et c'est la France qui nous a donné ce brillant concert. Je renvoie nos auditeurs à l'émission avec Pierre Milza, enregistrée il y a plusieurs mois. Pour terminer tout de même sur une note positive, j'ai commencé par cet attentat, mais finalement ces dernières années, les années avant la guerre, ce sont les plus belles de François Ferdinand, tant d'un point de vue personnel dans sa vie de famille que d'un point de vue public, puisqu'il s'affirme véritablement comme le futur héritier.
Alors, sans hésitation, il connaît une vie de famille très heureuse, et tout au long des 14 années de la vie de couple qu'il a pu mener avec Sophie Chotek, il se félicite de ce mariage et du bonheur qu'il a avec les trois enfants qu'elle lui a donnés. Du point de vue politique, il est associé d'une manière de plus en plus proche aux décisions de la couronne. Il est à la tête de l'armée. Il discute à rang quasiment égal avec Guillaume II, notamment sur les questions navales. Donc oui, en 14, au bel été 14, la vie est belle. Le trône est proche parce que malheureusement, finalement, François-Joseph est proche du terme de sa vie, tout semble lui sourire, puis intervient l'attentat.
Je renvoie donc nos auditeurs à votre excellente biographie consacrée à François Ferdinand d'Autriche, de Meyerling à Sarajevo, parue aux éditions de Fallois. C'est un ouvrage qui vient de recevoir le prix du Nouveau Cercle de l'Union qui vous a été remis, Jean-Louis Thierriot, par Gabriel Debreuil. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.